Ben, si je cherche un peu dans le passé les points forts, je crois que le point plus fort que j'ai dans ma jeunesse, bien sûr, c'est la libération de la France à la fin de la résistance, le départ des nazis. Pour moi, ça a été le début qui avait commencé avec la guerre d'Espagne. Je voyais dans les revues que recevaient mes parents, l'illustration, je voyais la guerre d'Espagne. Je n'avais jamais compris ce que c'était qu'une guerre. Ensuite, arrive la libération, j'ai vu ce que c'était qu'une guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand j'ai visité avec l'ingénieur qui était chargé de faire le boulot, les grottes de Lascaux. En 48, un ami de mon père, qui était ingénieur dans le coin, électricien, électricité, était chargé de faire l'électrification des grottes de Lascaux. Et là, j'étais sidéré. Parce que j'avais jamais vu une grotte comme ça, aussi belle, avec les projecteurs qu'on baladait. Ça, c'était un point très fort. J'étais encore assez jeune. Je vais avoir 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Mais le point le plus fort, ça a été une nuit que j'ai passée entre le Pirée et Alexandrie, où dans un bateau russe, sur un bateau russe, j'allais faire un reportage chez Nasser, en Égypte. Et on a fait sur un bateau russe parce que c'était beaucoup plus intéressant de voir comment, puisque Nasser était très, très lié avec Moscou à l'époque, comment on peut parler aux gens du bateau qui étaient tous de la nomenclatura soviétique sur le bateau. Et ça a été une nuit assez passionnante, dans laquelle je disais aux gens, mais vous n'avez pas peur quand même d'avoir une idéologie qui est en train de faire fuir les gens de l'Est vers l'Ouest? C'est quand même pas normal. Il me disait, et vous, dans votre coin, où on brûle les petites filles pour la couleur de leur peau, est-ce que c'est pas la même chose? Et j'avoue que j'ai eu un coup d'arrêt là. J'ai dit, ben oui, bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre tuer les petites filles pour la couleur de leur peau, comme ça se passait en Alabama, ça venait de se passer quelques jours avant, et de laisser les gens foutre le camp à pied parce qu'ils trouvent que l'enfer soviétique, c'est quand même pas le pied. J'ai dit oui, il y a un gros problème en effet. Et comme j'avais eu le plaisir de découvrir Faulkner pendant mon service militaire en Allemagne, je me suis dit, ben, il faut que j'aille voir Faulkner. Il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble là-bas, dans le sud, où on brûle les petites filles pour la couleur de leur peau. Alors, malheureusement, j'ai eu un peu de difficulté à obtenir très vite un visa, parce qu'un Français qui allait au Mississippi, c'était suspect auprès du consulat américain à Paris. C'était un peu suspect. Si j'avais dit, je veux un visa pour aller à Los Angeles voir Hollywood ou à New York pour voir l'Empire State Building, on m'aurait dit pas de problème. Mais là, un gars qui veut aller chez les Noirs, dans le Mississippi, là où il y a un problème, là où on brûle les petites filles pour la couleur de leur peau, ils m'ont fait attendre pratiquement un an pour me donner le visa. Et quand j'ai eu le visa en question, au bout d'un an, Faulkner venait de mourir. Donc j'ai raté mon grand bonhomme, parce que j'étais emballé par Bernanos et par Proust, mais alors là, quand j'ai lu Faulkner, j'ai dit ça, c'est aujourd'hui, quoi. C'est nous aujourd'hui, on est dans la même panade, quoi. Et j'étais malheureux de ne pas le rencontrer, mais j'ai rencontré le pays dans lequel il vit. J'ai rencontré le pays des Noirs et des Blancs, le pays de toute toute la série de Yoknopatawpha, qui est le nom comme il l'appelait, le timbre-poste de ma vie. C'est vrai que son comté, le comté de Yoknopatawpha, qui est un petit comté autour de lui, qui est gros comme un département français, c'était un comté tout petit. Mais pour lui, c'était le timbre-poste de sa vie. Il a raconté sur son comté la vie des hommes d'une façon totalement universelle, mais la vie des hommes d'un petit département français, basé autour de Oxford, Mississippi, c'est-à-dire à mi-chemin entre la Nouvelle-Orléans et Memphis. Et ça a été pour moi très important. Pourquoi? Un, parce que je venais de me marier. Notre fille est née là. Premier point, c'est important, la vie d'un premier enfant. La deuxième chose, c'est que j'y étais allé pour faire des photos. Je faisais du reportage jusque-là, mais ça restait du reportage. On me donnait des commandes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je faisais ceci, je faisais cela. Comme j'étais passionné de dessin et de peinture avant, donc je cadrais assez bien, sans avoir fait d'école de photo. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y en avait pas d'école de photo. Et là, j'ai appris à photographier. J'ai appris à photographier en trouvant des extensions visuelles aux remarques, aux méditations, aux opinions, au visionnement du monde que racontait Faulkner. Parce qu'il racontait la vie de tous les jours. Il l'a raconté d'une façon incroyablement réaliste et pourtant terriblement romanesque. S'il avait fait d'une façon éclectique, pas éclectique, non, d'une façon mathématiques, il aurait fait un reportage en donnant des noms, des poids, des prix, des couleurs. Lui, il allait plus loin. Il faisait une métaphore de son pays à travers la société dans laquelle il vivait. Et c'est pour ça qu'il aimait beaucoup la France, d'ailleurs. Les Français ont été les premiers à l'éditer dans les années 30. Gallimard a été un des premiers à éditer, à traduire, à éditer les romans de Faulkner. Et c'est tous ses amis, et quand je dis tous ses amis, c'était pas la foule, parce qu'il était trop direct et trop provocateur pour être adoré par l'opinion publique, tous ses amis m'ont dit ils auraient été très contents de te voir parce qu'il adorait ton pays. Il adorait la France, il a vécu à Paris pendant un an, je crois, ou un peu plus d'un an, rue Servandoni, tout près du Sénat à Paris. Il y est revenu souvent, il adorait ça, il adorait la vision qu'on a du monde, quoi. C'est pour ça que peut-être que la France est tellement aimée par les Américains, mais tellement haïe en même temps, parce que les Américains nous aiment et nous détestent. Ça dépend du moment.
Alors, Alain, ce départ aux États-Unis, c'est en quelle année?
63.
Et c'est une aventure qui va se prolonger pendant à peu près une vingtaine d'années, 19 ans, je crois.
19 ans.
19 ans.
Oui, pendant 19 ans. On ne pensait pas y rester très longtemps, d'abord parce que, en tant que, on n'était pas immigrants. On avait un visa d'immigration pour 2 ans qui a été renouvelé pour une troisième année. Mais après, il aurait fallu que j'émigre réellement. Et on n'avait pas envie d'émigrer en Amérique. On voulait continuer notre parcours. On avait un poste qui nous attendait à Brisbane, en Australie. On s'est dit, ben, on va aller à Brisbane. On a voulu d'abord aller au Mexique. On était très attirés par le Mexique. Ma femme parle couramment l'espagnol. Moi, je me débrouillais à l'époque assez bien encore, l'espagnol. Donc, on voulait y aller. Mais alors là, ça a été un de ces problèmes. Il faut être riche pour aller au Mexique. Il faut payer pas mal de bakchiches pour pouvoir traverser. Donc, on s'est dit, non, on va aller en Australie. Et puis, j'ai eu une demande du Canada. Quelqu'un m'a dit, mais non, on a vu ce que, on a raconté ce que tu faisais là-bas. Et ça serait bien, viens à l'université d'Ottawa. On est allé à Ottawa et là, au bout de 2 ans, on pensait partir vraiment pour la fameuse Australie. On avait envie de voir à quoi ça ressemblait. Rebelote, on me dit non, non, il faut que vous créiez un département de beaux-arts parce que vous avez donné un cours. J'avais donné un cours dans un collège universitaire pour jeunes filles qui avait entendu, enfin, le recteur de l'université d'Ottawa en avait entendu parler. Il m'a dit non, vous êtes le gars qu'il nous faut pour créer un département de beaux-arts moderne. Et j'ai proposé un département de beaux-arts dans lequel il y avait la photo et le cinéma, ce qui était une première au Canada. Je l'ai fait et ça a été le décollage de cette vision après.